7h31, aux États-Unis, aujourd'hui, s'ouvre le procès de Paul Manafort, qui est l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, lui qui a dû quitter assez rapidement ses fonctions en raison, pour des raisons assez évidentes que vous allez entendre en procès aujourd'hui, d'ailleurs. Il est le premier, donc, à se présenter devant le procureur spécial Robert Mueller. Et c'est l'enquête sur l'ingérence russe qui a fait que ce bonhomme-là, aujourd'hui, se retrouve devant la justice. Pour en parler, Raphaël Jacob est avec nous, chercheur à la chaire Raoul d'Endurant de l'UQAM. Salut, Raphaël.
Salut, Mathieu.
C'est gros, quand même.
C'est très gros. Écoute, on a un directeur, un ex-directeur d'une campagne présidentielle majeure qui se retrouve devant les tribunaux. C'est majeur. On ne voit pas ça à tous les jours ou à toutes les années. Une fois que ça s'est dit, il faut établir une nuance extrêmement fondamentale d'emblée. Tu parlais de l'enquête sur l'ingérence russe, pardon, de Bob Mueller. C'est vrai que M. Manafort, ainsi que son ancien bras droit, Rick Gates, qui lui aussi est devant la justice, tous les deux se sont ramassés dans le pétrin judiciaire dans lequel ils sont suite à cette enquête-là.
Et je sais où tu t'en vas la précision, oui. C'est ce pourquoi il répond aujourd'hui, ça date d'avant la campagne de Donald Trump.
Et donc, non seulement...
C'est une affaire avec Yanukovych, entre autres, en Ukraine.
En Ukraine. Donc, ça n'a rien, je répète, rien à voir avec quelques questions de collusion pendant la campagne entre le camp Trump, le gouvernement russe, Vladimir Poutine, peu importe. Ça n'a strictement rien à voir. C'est qu'on a enquêté, évidemment, dans le cadre de cette enquête-là, sur une panoplie d'individus rattachés de près ou de loin à Donald Trump, incluant Paul Manafort. Et en enquêtant sur ce type-là, on a vite vu qu'il y avait des affaires assez louches, assez douteuses qu'il avait brassées dans les années précédentes. Son implication au sein de la campagne.
Et je me rappelle, Raphaël, même à sa nomination de Paul Manafort, ça avait suscité pas mal de... Puis c'était pas du Trump bashing, là, même au sein des gens autour de lui qui se posaient des questions, savoir comment se fait-il qu'il avait nommé ce gars-là qui, tu sais, on sent, il a trempé avec des gens qui étaient pas toujours très...
Propre,
c'est le cas de le dire. C'est plus catholique que le pape, ça, c'est non. Qui était vraiment... il a trempé avec toutes sortes de monde, ce gars-là.
En effet. Et en fait, pour répondre à la question pourquoi Trump est allé le chercher, il avait une mission très, très, très singulière au moment de son embauche. C'est qu'il faut se rapporter où est-ce qu'on était. On était vers la fin des primaires républicaines. Et Donald Trump, évidemment, étant détesté par l'establishment du Parti républicain,
ouais,
risquait de se retrouver à la Convention nationale républicaine à Cleveland dans l'été qui allait suivre, dans un scénario de ce qu'on appelle une convention contestée. C'est-à-dire que au lieu d'arriver à la convention avec la majorité de délégués qui lui assurerait l'investiture du parti, c'était possible qu'il n'ait pas la majorité, qu'il ait une pluralité et que là, t'es essentiellement une bataille carrément au sein de l'aréna pendant la convention pour essayer de lui enlever la nomination. Et Paul Manafort était le stratège clé qui avait aidé le dernier candidat présidentiel républicain à remporter une convention contestée en 76, en l'occurrence Gerald Ford, qui était évidemment le président sortant. Et du côté du camp Trump, on s'était dit, s'il y a quelqu'un qui peut nous aider dans un scénario aussi inhabituel, aussi inusité qu'une convention contestée, c'est Manafort. Donc, on va fermer les yeux devant, disons, toutes les allégations, toutes les apparences de comportement professionnel douteux qu'il a pu avoir avant qu'on l'engage et on va l'amener de notre côté. Et donc, il avait été engagé, mais il n'était pas resté très longtemps. Donc, quand Donald Trump dit, pour essayer de minimiser l'affaire Manafort, qu'il n'était pas vraiment un très, très proche collaborateur, qu'il n'a pas été là longtemps, c'est vrai et c'est faux. C'est-à-dire que c'est faux de dire qu'il n'était pas proche dans la mesure où c'était quand même le directeur de campagne, mais c'est vrai, par contre, de dire qu'il n'a pas été là longtemps. Ça, c'est vrai.
Quand Donald Trump, depuis quelques jours... revient sur l'enquête Mueller. Il a parlé, entre autres, de cette espèce de lien difficile, lien d'affaires difficile. Là. Je fais une traduction qui est peut-être pas la plus littérale possible. Là. On parlait de relations difficiles avec Robert Mueller depuis longtemps. Est-ce que, dans le fond, il tente de l'attaquer là-dessus en disant pour discréditer, il tente de discréditer l'enquête depuis un bout de temps, si on s'entend. Mais voyant tout le ménage qui a été fait autour de lui, s'il y avait une relation si difficile avec Robert Mueller, il l'aurait dégommé, ça fait longtemps. Il l'aurait jamais nommé là. C'est lui qui l'a nommé?
C'est le numéro 2 du département de la justice qui l'a nommé, suite au congédiement de James Comey. C'est sûr que Donald Trump est dans une situation qui est presque ingérable au niveau de l'enquête Mueller, parce qu'il peut comme pas dégommer Mueller. En fait, il a le pouvoir peut-être constitutionnel de le faire, mais t'imagines-tu, politiquement, l'ouragan qu'il susciterait s'il y allait d'une telle chose.
Donc, il doit le laisser aller jusqu'à la fin, il n'y a pas le choix. Là.
Il y a comme pas le choix politiquement. Constitutionnellement, comme je te dis, ça c'était discutable, mais politiquement, il n'y a comme pas le choix. Mais il y a une nuance entre juste le laisser aller et ne rien faire.
Et l'attaquer
quotidiennement ou presque comme il le fait depuis les dernières semaines, voire les derniers mois, pour essayer d'au moins miner et minimiser la crédibilité que Mueller et son enquête ont au sein de l'électorat. Et je te dirais que les plus récents sondages semblent démontrer que ça a un certain impact. C'est-à-dire que les électeurs de Trump, très clairement, avant même que le moindre rapport ait été publié par l'équipe d'enquête de M. Mueller, très clairement, les électeurs de Trump semblent très, très récalcitrants à croire quoi que ce soit qui va émaner de cette enquête-là.
Est-ce que cette enquête-là prend trop de temps?
Ça dépend pour qui. Ça dépend pour qui. Pour Donald Trump et son administration, la réponse évidente serait de dire oui. Pour le pays, de façon générale...
À ceux qui diront s'il y avait des évidences à ce point-là qu'il y avait de la collusion, on l'aurait trouvé ça fait longtemps.
Mais ça, il faudra voir. Ça, il faudra voir. Sans farce, là, de un, ça peut être vrai comme ça peut ne pas l'être. La réalité, c'est qu'on sait très, très peu de ce qui se brasse à l'interne, évidemment, au sein de cette enquête-là. Ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est que même si on ne découvre rien au niveau de la collusion ou de tentative de collusion avec la Russie, ça ne veut pas dire qu'on ne trouve rien d'incriminant touchant soit des proches de M. Trump, et là, on a un exemple éloquent en M. Manafort, justement, aujourd'hui, ou même d'autres membres encore plus rapprochés de la garde de Donald Trump, incluant peut-être le principal intéressé. Et c'est là que toute la controverse autour de son ex-avocat, Michael Cohen, est importante, parce que ce type-là aussi est sous les feux de la rampe à cause de cette enquête-là et a possiblement, je répète, possiblement des informations incriminantes sur la garde très rapprochée de Trump, qui n'ont pas nécessairement de lien direct avec la Russie.
Là. Lui, il a reviré sa veste de bord complètement. Il est vu par les partisans de Donald Trump comme le pire enfant de chienne, finalement, qui décide de l'amener en dessous des roues de l'autobus.
Oui.
Et même son avocat, le nouvel avocat de M. Trump, Rudolph Giuliani, qui est l'ancien maire de New York, il est allé de toutes sortes de déclarations. Écoute, moi, je suis surpris que M. Trump laisse aller à ce point-là Rudolph Giuliani. C'est une catastrophe d'entrevue en entrevue. Est-ce que c'est ma perception qui est mauvaise? Ou?
Ça dépend. Je veux dire qu'au niveau de la discipline du message, là, pour reprendre un terme de communication stratégique bien chéri, là, c'est assez ordinaire le travail que Giuliani fait.
Parce qu'il est en train de dévoiler des rencontres qui auraient eu lieu en préparation avant de la rencontre avec l'avocate russe, qui n'ont jamais été évoquées publiquement.
Exact.
Et c'est lui qui est en train de couler ça dans les médias.
Exact. Et c'est qu'il se contredit pratiquement d'un jour à l'autre. Là. Donc, je te dirais d'un point de vue discipline...
Et t'es généreux d'un jour à l'autre, c'est pratiquement d'une entrevue à l'autre.
T'as absolument raison. Donc, de ce point de vue-là, oui, c'est sûr que Giuliani, son travail laisse à désirer. De l'autre côté, où je te dirais qu'il y a quand même une fonction qui peut être utile, c'est en termes de pitbull. Le type sert de chien d'attaque pour Donald Trump, comme si Donald Trump n'était pas lui-même un bon chien d'attaque pour ses propres besoins. Mais Giuliani, je te dirais, sert de pitbull numéro 2 pour l'administration Trump, pour la Maison-Blanche. Et quand on a besoin d'attaquer, de miner publiquement la crédibilité de quelqu'un, que ce soit Bob Mueller, que ce soit les enquêteurs de Bob Mueller, ou que ce soit Michael Cohen, Rudy Giuliani est un bon boxeur, un bon pugiliste en termes politiques. Mais d'un point de vue discipline de message, là, c'est vrai que, comme je te disais il y a quelques instants, c'est très, très ordinaire le travail qu'il fait depuis quelques temps maintenant.
Parce que parlant de l'avocat Cohen, il l'a déclaré comme étant... autant c'était une bonne personne il n'y a pas si longtemps, et là maintenant, c'est le pire des salauds. Là.
C'est un menteur pathologique.
Menteur pathologique,
c'est
effectivement.
C'est l'expression exacte que Giuliani a utilisée à peine quelques semaines après l'avoir qualifié d'homme honorable. Et quand on lui a demandé à Giuliani comment est-ce que tu peux justifier cette espèce de contradiction spectaculaire-là, écoute ce qu'il a dit. Il a dit, quand je défendais Michael Cohen publiquement... Il y a quelques mois, je le connaissais pas vraiment. Maintenant, je le connais.
Ouais.
Et là, tu te dis, OK, dans le fond, tu connaissais pas vraiment quelqu'un que t'encensais publiquement. Donc, c'est sûr que, encore une fois, au niveau de la crédibilité, ça laisse quelque peu à désirer.
Dans ce que tu as vu, là, puis juste pour conclure ce volet-là, avant de te parler de l'Iran, on va y passer rapidement, là, mais est-ce qu'il. Parce que là, on a la défense maintenant là, des gens qui défendent Donald Trump et même de Rudolph Giuliani. Il dit, il nie la présence de collusion. Ça, c'est puis le principal intéressé l'a toujours dit. Il n'y en a pas de collusion. Là. Il l'a répété. Mais on dit aussi, de toute façon, s'il y avait de la collusion, c'est pas un crime.
C'est pas nécessairement faux, ça. Sans farce. C'est pas nécessairement
faux. Il n'y a pas d'article de loi précisément là-dessus. Mais
ça, c'est débattable.
L'enquête de Robert Mueller pourrait quand même porter des accusations en vertu de ça.
Exact. Et c'est là que je te dis que c'est pas évident. Là, on serait vraiment dans une zone grise. Ce qui est clair, ce que je peux dire qui est clair, c'est qu'une tentative de collusion, comme ce que semblent avoir fait Jared Kushner et Donald Trump Jr. et Paul Manafort lorsqu'ils ont rencontré cette fameuse avocate russe en juin 2016 à la Trump Tower à New York, qui prétendait détenir des informations compromettantes sur l'adversaire de l'époque de M. Trump, Hillary Clinton. Clairement, il semblait y avoir une tentative de collusion. Là. Mais une tentative de collusion, ça, c'est assez démontré qu'il n'y a rien de criminel en soi. Est-ce que de la collusion avec un gouvernement étranger, ça serait nécessairement criminel? Il faudra voir. Ça, je te dirais que ça va vraiment dépendre de ce qu'on voit.
Consultez l'avocat ou le juriste en question, puis tout dépendra de sa vision des choses,
en
visiblement,
effet.
Parce que quand tu regardes, écoute, t'en as une gang qui disent qu'il n'y a rien là.
Mm-hmm.
Mais t'en as une bonne gang aussi qui disent qu'il pourrait, effectivement, il y a des matières à des accusations criminelles.
Absolument, ça, absolument, absolument.
OK, en terminant, Pierre, très rapidement, parlons de l'Iran, parce que hier il y a eu ces déclarations où M. Trump disait qu'il était prêt à rencontrer son homologue Hassan Rouhani n'importe quand. Il était prêt à discuter. Chose à ajouter là-dessus?
Écoute, tu me vois le visage, j'ai de la misère, il faut sourire. C'est le même type, en l'occurrence, le président des États-Unis, qui il y a quoi, 7 jours, lançait sur Twitter un message entièrement en lettres majuscules en interpellant le président iranien par nom et disant « Ne menacez plus jamais, jamais les États-Unis, faute de quoi vous allez souffrir de conséquences comme peu d'êtres humains en ont souffert dans l'histoire du monde. » Et là, 7 jours plus tard, il veut me rencontrer, on va le rencontrer n'importe quand, n'importe où, aucune précondition. Et, qu'est-ce que tu veux que j'ajoute d'autre, Mathieu? C'est surréel.
Merci, Raphaël Jacob,
bye bye,
d'avoir été avec nous. Il est membre de la chaire Raoul d'Endurant de l'UQAM.